2010. Quand Linda Saubers rentra à la maison à 3h30 de l'après-midi ce vendredi, Pete était assis à la table de la cuisine en train de boire un chocolat chaud. Ses cheveux étaient encore humides de la douche. Linda suspendit son manteau à l'un des crochets fixés à côté de la porte de derrière et posa à nouveau la face interne de son poignet contre le front de son fils. « Aussi frais qu'un concombre !» déclara-t-elle. « Tu te sens mieux ?»«
Ouais, » dit-il. « J'ai préparé des crackers au beurre de cacahuète à Tina quand elle est rentrée de l'école. »«
Tu es un bon grand frère. Et où est-elle ?»«
Chez Hélène. Où veux-tu qu'elle soit ?»
Linda leva les yeux au ciel et Pete rigola. « Tout Jésus, c'est bien le sèche-linge que j'entends ?»«
Ouais, il y avait des habits sales dans le panier, je les ai lavés. T'inquiète, j'ai suivi les indications sur la porte, les habits vont bien. »
Elle se pencha pour l'embrasser sur la tempe. « Mais c'est une vraie petite abeille, ce garçon !»«
J'essaye, » dit Pete.
Il ferma sa main droite pour cacher son ampoule. La première enveloppe arriva presque une semaine plus tard par un jeudi neigeux. L'adresse, Monsieur Thomas Saubers, 23 Sycamore Street, était dactylographié. Dans le coin supérieur droit était collé un timbre de 44 cents, célébrant l'année du tigre. Il n'y avait pas de mention d'expéditeur dans le coin supérieur gauche. Tom, seul membre du clan Saubers présent à la maison à midi, l'ouvrit dans l'entrée, s'attendant soit à de la pub, soit à une autre relance de factures impayées. Dieu sait qu'ils en avaient reçu un paquet ces derniers temps. Mais c'était ni de la pub, ni une facture. C'était de l'argent. Le reste du courrier, catalogue de trucs chers qu'il ne pourrait jamais s'offrir et prospectus publicitaire adressé aux locataires, lui tomba des mains et s'éparpilla à ses pieds sans qu'il y prête aucune attention. D'une voix basse, presque grondante, Tom Saubers demanda « C'est quoi ce bordel ?» Quand Linda rentra à la maison, l'argent trônait au milieu de la table de la cuisine. Tom était assis en face de la petite pile de billets bien rangée, le menton posé sur ses mains croisées. Il ressemblait à un général en train d'étudier un plan de bataille.
« C'est quoi ça ?» demanda Linda.
« $500 » Il regardait toujours les billets. « 8 de 50 et 5 de 20. » C'était dans le courrier.
« Qui nous l'envoie ?»«
Je ne sais pas. » Elle lâcha son cartable, s'approcha de la table et ramassa le tas de billets. Elle les compta, puis regarda Tom avec des yeux ronds.
« Mon Dieu, Tommy ! La lettre disait quoi ?»«
Il n'y avait pas de lettre, juste l'argent. »«
Mais qui ?»«
Je ne sais pas, Aline. Mais il y a un truc dont je suis sûr. »«
Quoi ?»«
Ça pourrait sacrément nous servir. »
« Putain !»
s'exclama Pete quand ils le lui annoncèrent. Il était resté tard au collège pour un match de volley-ball interne et il était rentré juste avant l'heure du dîner.
« Ne sois pas vulgaire !» dit Linda, l'air préoccupé.
L'argent était toujours sur la table.
« Combien ?»
Et quand son père le lui dit,
« Qui c'est qui l'a envoyé ?»«
Bonne question !» dit Tom. « Et maintenant, la question banco qui peut vous permettre de doubler votre gain ?» C'était la première blague que Pete l'entendait faire depuis bien longtemps. Tina entra dans la cuisine.
« Moi, je crois que papa a eu une bonne fée. Hé, papa, maman, regardez mes ongles. Hélène a eu un vernis à paillettes et elle m'en a mis. »
« Ça te va bien, ma petite puce, » dit Tom. D'abord une blague et maintenant un compliment. C'était tout ce qu'il fallait pour convaincre Pete qu'il avait pris la bonne décision. Carrément la bonne décision. Ses parents ne pouvaient pas vraiment renvoyer l'argent, hein ? Non. Sans expéditeur, ils ne pouvaient pas. Et au passage, ça faisait combien de temps que papa n'avait pas appelé Tini ma petite puce ? Linda lança un regard perçant à son fils.
« Tu saurais pas quelque chose de tout ça, par hasard ?»«
Non, mais je peux en avoir ?»«
C'est ça, compte là-dessus, » dit-elle. Puis elle se tourna vers son mari, les mains sur les hanches.
« Tom !» Quelqu'un a manifestement fait une erreur.
Tom réfléchit à cette éventualité, et quand il parla enfin, c'était pas du wafi-wafi. Sa voix était calme. Ça paraît peu probable. Il poussa l'enveloppe vers elle, tapotant de l'index son nom et son adresse.
Oui, mais
Y a pas de mais qui tienne, Lynn. On doit payer le chauffage, et avant ça, faut qu'on règle ta Mastercard. Sinon, ils risquent de te la retirer.
Oui, mais...
Tu perds ta carte de crédit, et on peut dire adieu à ta cote de solvabilité.
Toujours pas d'agressivité. Calme et raisonnable. Convaincant.
Pour Pete, c'était comme si son père avait souffert d'une forte fièvre qui venait juste de retomber. Il souriait même. Il souriait, et il toucha la main de sa femme.
Il se trouve que pour le moment, ta cote de solvabilité étant la seule que nous ayons, on ne peut pas se permettre de la perdre. Et puis, Tina pourrait avoir raison. Peut-être bien que j'ai une bonne fée.
Non, pensa Pete, c'est un bon fils que tu as.
Tina s'exclama.
Oh, attendez, je sais d'où il vient cet argent.
Tous se tournèrent vers elle. Pete eut soudain très chaud. Elle pouvait pas savoir, si? Comment elle saurait?
Sauf qu'il avait dit ce truc débile sur les trésors enterrés et...
D'où, ma chérie?
Demanda Linda.
Le truc du fonds d'urgence. Ils ont dû recevoir de l'argent en plus, et maintenant ils le partagent.
Pete laissa échapper en silence un soupir de soulagement. Et c'est seulement quand l'air franchit ses lèvres qu'il s'aperçut qu'il avait retenu son souffle.
Tom ébouriffa les cheveux de Tina.
Ils n'enverraient pas du liquide, ma puce. Ils enverraient un chèque. Et tout un tas de paperasse à signer.
Pete se dirigea vers la gazinière.
J'ai refait du chocolat chaud. Quelqu'un en voudra?
Ils en voulaient tous.
Les enveloppes continuèrent d'arriver. Le prix des timbres augmenta, mais la somme d'argent ne changea pas. Un bonus de 6 000 dollars par an.
Pas énorme, mais net d'impôts, et juste ce qu'il fallait pour éviter à la famille Saubers de crouler sous les dettes.
Les enfants eurent interdiction d'en parler à quiconque.
Tina ne pourra jamais tenir sa langue,
avait dit Linda à Tom un soir.
Tu le sais aussi bien que moi. Elle va le dire à son idiote de copine et Helen Briggs s'empressera de le crier sur les toits.
Mais Tina garda le secret, en partie parce que son frère, qu'elle idolâtrait, lui avait dit qu'elle serait interdite de séjour dans sa chambre si elle crachait le morceau, mais surtout parce qu'elle se souvenait des Wafi Wafi.
Pete cacha l'argent dans le creux festonné de toile d'araignée au fond du placard de sa chambre, derrière la plainte branlante. Toutes les 4 semaines environ, il prélevait 500 dollars et les mettait dans son sac de cours avec une des 50 enveloppes libellées qu'il avait préparées au collège, sur un ordinateur de la salle informatique. Il s'en était occupé une après-midi après le volley-ball, alors que la salle était déserte.
Il postait ses lettres à M. Thomas Saubers, 23 Sycamore Street, de diverses boîtes aux lettres de la ville, menant à bien son plan de sauvetage familial avec le savoir-faire d'un maître escriminalité. Il avait toujours peur que sa mère découvre ce qu'il trafiquait, qu'elle désapprouve, probablement avec véhémence, et que les choses redeviennent comme avant. Tout n'était pas tout rose non plus. Il y avait toujours des wafi-wafi épisodiques, mais il supposait qu'aucune famille n'était parfaite en dehors de ces vieilles sitcoms dans Nick at Night. Il pouvait regarder Nick at Night maintenant, et aussi Cartoon Network, et MTV, et tout le reste. Parce que, tenez-vous bien, mesdames et messieurs, le câble était revenu.
En mai, une autre bonne nouvelle tomba. Papa fut engagé à mi-temps par une nouvelle agence immobilière en tant qu'enquêteur prévente.
Pete ne savait pas ce que c'était et s'en contrefoutait. Tout ce qui comptait, c'est que son père pouvait travailler à la maison par téléphone et ordinateur et que ça rapportait un peu d'argent.
2 autres choses comptèrent dans les mois qui suivirent la première rentrée d'argent. Et d'une, l'état de papa s'améliora. En juin 2010, quand l'auteur du massacre du City Center, comme on l'appelait, fut enfin arrêté, Tom commença à marcher sans ses béquilles et à mettre la pédale douce sur les pilules roses. L'autre chose était plus difficile à expliquer, mais Pete la voyait. Et Tina aussi. Papa et maman se sentaient, disons, bénis. Et maintenant, quand ils se disputaient, ils avaient l'air aussi coupables que furieux, comme s'ils étaient en train de cracher sur leur mystérieuse bonne étoile. Souvent, ils s'arrêtaient avant que ça tourne trop au vinaigre et changeaient de sujet. Souvent, c'était de l'argent qu'ils parlaient, et de qui pouvait bien l'envoyer. Ces discussions n'aboutissaient jamais nulle part, et c'était tant mieux.
Je ne me ferai pas prendre, se disait Pete. Je ne dois pas me faire prendre et je ne me ferai pas prendre.
Un jour, en août de cette année-là, papa et maman emmenèrent Tina et Hélène visiter une ferme pédagogique, la ferme de la Vallée Heureuse. C'était l'occasion que Pete avait patiemment attendue, et dès qu'ils furent partis, il retourna au ruisseau avec deux valises. Après s'être assuré qu'il n'y avait personne à l'horizon, il creusa pour extraire la malle de la berge et transféra les carnets dans les valises. Il réenterra la malle et retourna à la maison avec son butin. Sur le palier de l'étage, il tira l'échelle pliante du grenier et y monta les valises. C'était un petit espace au plafond bas, froid en hiver et étouffant l'été. Sa famille l'utilisait peu. Le surplus de leurs affaires était toujours stocké au garage. Les quelques reliques entassées là-haut avaient probablement été abandonnées par les familles qui avaient occupé le 23 Sycamore Street avant eux. Il y avait une poussette sale inclinée sur une unique roue, un lampadaire avec des oiseaux tropicaux sur l'abat-jour, des vieux numéros de Red Book et Good Housekeeping liés avec de la ficelle, une pile de couvertures moisies qui sentait vraiment pas bon. Pete entassa les carnets dans le coin le plus reculé du grenier et avant de les dissimuler sous les couvertures, en piocha un au hasard, puis s'assit sous l'une des deux ampoules du plafond et l'ouvrit. L'écriture était cursive et assez petite, mais soignée et facile à lire. Il n'y avait aucune rature. Et Pete trouva ça incroyable. Et bien qu'il soit à la première page du carnet, un petit numéro entouré en haut indiquait 482, ce qui lui laissa penser que c'était la suite non pas d'un seul carnet, mais d'une demi-douzaine d'autres, au moins.
Chapitre 27. L'arrière-salle du Drover était la même que 5 ans auparavant. Même odeur de vieille bière mêlée à la puanteur des enclos à bestiaux, et à l'âcre relent de gasoil émanant du dépôt routier qui faisait face à l'immensité déserte de cette moitié du Nebraska. Stu Logan n'avait pas changé, lui non plus. Même tablier blanc, même cheveux anormalement noirs, et jusqu'à cette même cravate à motifs d'ara et de perroquet qui étranglait son cou rose. « Ça alors, Jimmy Gold en chair et en os, » dit-il. Et il sourit de son vieux sourire antipathique qui disait « On s'aime pas, mais faisons semblant. » T'es venu me payer ce que tu me dois, alors ? Exactement, dit Jimmy. Et il toucha sa poche arrière, où attendait le pistolet. Celui-ci était petit au toucher, et donnait l'impression définitive d'un objet capable, utilisé correctement et avec courage, d'acquitter toutes les dettes. Alors entre, dit Logan. Viens prendre un verre. T'as l'air assoiffé. Je le suis, répondit Jimmy. Et avec le verre, je prendrai bien...
Coup de klaxon dans la rue. Pete sursauta et regarda autour de lui, comme pris en faute. Comme s'il avait été en train de se branler, et pas de lire. Et s'ils étaient rentrés plus tôt parce que cette cruche de Hélène avait été malade en voiture ou un truc du genre? Et s'ils le trouvaient ici en haut avec tous ses carnets? Tout pourrait se casser la figure. Il fourra le carnet qu'il était en train de lire sous les vieilles couvertures. Peuh, l'odeur! Et rampa jusqu'à la trappe, n'accordant qu'un bref regard aux valises. Pas le temps de s'en occuper. Alors qu'il descendait l'échelle, le changement de température, d'étouffant à estival, le fit frissonner. Pete replia l'échelle et la poussa vers le plafond, grimaçant quand la trappe grinça sur ses gonds rouillés et se referma en claquant. Il alla dans sa chambre, regardé par la fenêtre. Personne dans l'allée. Fausse alerte. Ouf! Il retourna dans le grenier récupérer les valises. Il les remit dans le placard d'en bas, prit une douche, se disant une fois de plus de pas oublier de nettoyer la baignoire après, puis enfila des vêtements propres et s'allongea sur son lit. « C'est un roman, » se dit-il. « Avec autant de pages, c'est forcément un roman. Et il se peut qu'il y en ait plus d'un, parce qu'aucun roman serait assez long pour remplir tous ses carnets. Même la Bible les remplirait pas tous. Et puis, l'extrait qu'il avait lu était intéressant. » L'idée de fouiller dans les carnets pour trouver celui où le roman commençait l'excitait. Voir s'il était vraiment bon. Parce qu'on ne pouvait pas juger de la qualité d'un roman rien qu'en lisant une page, si ? Pete ferma les yeux et commença à sommeiller. D'habitude, il n'était pas du genre à faire des siestes, mais la matinée avait été longue. La maison était déserte et silencieuse, et il décida de se laisser aller. Pourquoi pas ? Tout allait bien. du moins là tout de suite, et c'était grâce à lui. Il méritait bien une sieste. Mais ce nom, Jimmy Gold, Pete aurait juré l'avoir déjà entendu quelque part. En cours, peut-être. Madame Swiderowski leur donnant un peu de contexte sur l'un des auteurs au programme. Peut-être. Elle faisait souvent ça. Peut-être que j'irai voir sur Internet plus tard, se dit Pete. Oui, c'est ça. Je vais... Il dormait.